l'infâme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Dans notre émission aujourd'hui, nous recevons le journaliste Jean-Baptiste Mallet. Nous avons eu la chance de rencontrer Jean-Baptiste Mallet de passage à Paris le 15 février 2023. Et nous avons parlé avec lui de son dernier livre, La capitale de l'humanité. Jean-Baptiste Mallet, nous allons parler du livre donc essentiellement La capitale de l'humanité. Mais je sais que vous êtes journaliste avec des enquêtes au long cours, comme vous avez l'habitude de le dire. Vous êtes aussi écrivain, vous êtes documentariste, je sais que vous avez travaillé aussi dans le cinéma, et peut-être même dans la politique. Mais en fait, ça, on va en reparler. On va en reparler. D'abord, comment vous êtes intéressé au journalisme ?
J'ai commencé dans le journalisme lorsque j'étais encore étudiant. Je vivais à l'époque à Toulon, et j'ai découvert un journal satirique, Le Ravi, qui malheureusement vient d'interrompre sa parution. C'était fin 2022, la fin du Ravi. Mais j'ai donc découvert, ça devait être vers 2009-2010, si je ne dis pas de bêtises, ce satirique marseillais. Et j'ai tout simplement signé des premiers articles bénévolement, en fait, sur la vie locale. Et j'ai donc intégré petit à petit cette petite équipe très sympathique qui était l'équipe du Ravi. Ensuite, je suis devenu pigiste un peu naturellement avant même d'obtenir ma licence de lettres. J'ai fait quelques piges dans la presse nationale. Et de fil en aiguille, j'ai obtenu ma première carte de presse. Si je dis pas de bêtises, c'était en 2011. Et à l'époque, dans la région PACA, donc, je me suis... on peut dire spécialisé, il faut mettre des guillemets à spécialisé, mais notamment dans la guerre des mémoires. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les questions de stèles, de plaques en hommage à l'OAS ou à l'Algérie française, puisqu'il y en a tout de même beaucoup dans le sud de la France, que ce soit des plaques ou des stèles qui glorifient les débuts de la colonisation ou ensuite la colonisation en elle-même. Et donc, j'ai notamment couvert toute l'affaire des stèles de Marignane, puisqu'il y avait des stèles qui glorifiaient les tueurs de l'OAS. J'ai fait beaucoup d'articles, que ce soit dans la presse nationale ou la presse locale, sur ce sujet. Et puis après, j'ai fait une longue enquête sur l'extrême droite, qui s'est déclinée en deux supports. D'abord, un film documentaire sur Orange, parce que c'est assez peu connu, mais en fait, donc le FN a gagné 4 mairies en 95, Orange, Vitrolles, Marignane et Toulon, et Orange a été conservé par l'extrême droite, ce que beaucoup de gens avaient un peu oublié, avec Bompard, effectivement, qui s'est fâché avec Jean-Marie Le Pen, mais qui a créé des petites structures et qui s'est maintenu. Bon, alors, il a été condamné récemment, et donc il n'est plus à la tête d'Orange, mais en 2011, il était toujours maire d'Orange. Et donc j'ai fait un film qui s'appelle Main brune sur la ville, avec Bernard Richard pour réalisateur. Et donc j'ai mené cette enquête avec Bernard Richard. Et on a essayé de présenter qu'est-ce qu'une politique municipale d'extrême droite. En parallèle, j'ai mené une longue enquête qui est devenue un livre, Derrière les lignes du front, qui a été publié chez Golias. Et puis après, j'ai continué ces enquêtes. Alors, en m'infiltrant.
Quand vous étiez à Toulon, effectivement, vous étiez bien placé, si on peut dire, pour avoir connaissance avec tout ça, avec toute cette ambiance, disons, du Front National à l'époque. Et puis il y avait quelqu'un à la Ligue des droits de l'homme, professeur de mathématiques. Est-ce que vous l'avez connu? Qui était très engagé aussi dans toutes ces stèles, qui en avait beaucoup parlé dans la Ligue des droits de l'homme.
François Nadiras, oui, j'ai bien connu François Nadiras, c'était un ami. Et d'ailleurs, je salue son épouse, qui est également une amie. Oui, je l'ai bien connu. Je passais souvent chez François, emprunter des livres, discuter avec lui. On avait des échanges assez réguliers.
Et je signale qu'il a un site qui continue avec sa femme, justement, parce qu'on avait fait une émission avec lui.
Il est décédé, hein, il est décédé. François. Il est décédé il y a quelques années, mais effectivement, son site est toujours en ligne et son travail continue d'être diffusé grâce à l'Internet, en effet.
Alors, donc, on a vu votre travail sur Derrière les lignes du front, hein, Main brune sur la ville, d'abord. Et puis, là, vous avez continué, alors, dans un autre domaine, dans le domaine, disons, industriel, Amazon.
Oui, en 2013, je me suis fait embaucher chez Amazon dans l'entrepôt de Montélimar, en fait, en équipe de nuit. À l'époque, Amazon n'était pas encore l'entreprise, on va dire le grand méchant que l'on connaît tous aujourd'hui. Quand on ouvrait les journaux, les magazines, ou qu'on regardait la télévision, beaucoup de journalistes louaient le modèle d'Amazon et applaudissaient les choix de Jeff Bezos, son patron milliardaire. Et moi, je me suis rendu en fait en 2012 devant un entrepôt logistique. À l'époque, j'avais été surpris de voir qu'aucun travailleur ne voulait s'exprimer et accepter de répondre à mes questions. L'un d'eux m'avait confié en fait que le règlement intérieur interdisait aux travailleurs de s'exprimer. Et donc après ça, j'avais tout simplement formulé une demande officielle à Amazon en demandant à visiter un entrepôt. Ça m'avait été refusé et je m'étais aperçu également que lorsqu'Arnaud Montebourg avait inauguré en tant que ministre à l'époque le troisième entrepôt logistique d'Amazon à Chalon-sur-Saône, les journalistes n'avaient pas eu le droit de suivre le ministre au cours de cette visite. Et donc j'étais assez agacé du fait que dans une démocratie moderne, un journaliste n'ait pas le droit d'entrer dans un vulgaire entrepôt logistique. Et donc j'ai décidé d'aller y travailler en équipe de nuit. Et au terme de cette infiltration, j'ai écrit un petit livre qui s'intitule « En Amazonie », qui a été publié chez Fayard, donc en 2013, qui va être republié au mois de mai 2023 pour les 10 ans dans l'Amazonie, parce que c'est un texte qui connaît une belle vie depuis. Hein, il s'en vend régulièrement, il est étudié dans les écoles, notamment dans les lycées, parce qu'il a obtenu un prix lycéen de sciences économiques. Et donc, en Amazonie, bon, je ne veux pas paraître présomptueux, mais avait été, on va dire, la, une petite brèche ouverte dans le modèle Amazon, après beaucoup de militants, de libraires, de journalistes, parfois même d'élus, ont continué ce travail, hein, la société française, et puis partout dans le monde, beaucoup de gens se sont emparés de cette critique et l'ont diffusée, et on ne peut que s'en féliciter. Donc le combat culturel face à Amazon a été remporté. En revanche, malheureusement, les conditions de travail n'ont pas beaucoup changé. J'ai signé un reportage l'été dernier dans l'Humanité. Je suis allé jusqu'en Pologne en fait pour enquêter sur la mort d'un travailleur dans un entrepôt polonais. J'ai également enquêté sur la mort d'un travailleur français dans l'entrepôt de Brétigny. Je republie ce reportage dans l'édition de poche qui sera donc publié à partir de mai 2023.
Bon, alors nous le conseillons bien sûr à tous nos auditrices et tous nos auditeurs de trouver ce livre qui doit être certainement très intéressant. Malheureusement, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais me le procurer. L'Empire en Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes. C'est bien ça? Puis alors après, il y a un autre ouvrage très important. L'Empire de l'or rouge, enquête mondiale sur la tomate d'industrie. Alors là, c'est encore une grande aventure, et pire même, parce que ça a duré des années, je crois, votre enquête.
Oui, ça a été une très longue enquête. En fait, lorsque j'ai réalisé le documentaire sur Orange, donc cette enquête sur les époux Bompard et sur l'extrême droite dans le département du Vaucluse, j'avais entendu parler d'une histoire, une histoire rocambolesque. Un élu local m'avait expliqué comment l'armée chinoise avait racheté une conserverie, une usine donc qui produisait du coulis de tomate, le fleuron français de la tomate industrie, le Cabanon. Le Cabanon était bien connu des consommateurs français, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi et comment l'armée chinoise avait pu s'intéresser à une conserverie, un lieu où on transformait des tomates. Ça me paraissait un peu absurde. Et donc j'ai d'abord contacté en fait les propriétaires de cette usine, hein, en l'occurrence le groupe Chalkis, qui était donc un grand conglomérat qui appartient au corps de construction et de production du Xinjiang, donc là une région tristement célèbre pour l'oppression du peuple ouïghour. Et donc en écrivant aux Chinois, aux dirigeants chinois localement, ces derniers m'avaient jamais répondu. Et donc un jour, je suis allé sur place, j'ai tout simplement tapé à la porte de l'usine. On n'a pas voulu me recevoir ce jour-là, mais derrière les grilles de l'usine, j'ai vu des grands fûts bleus. Et je me suis approché de la clôture, et sur une étiquette, j'ai pu lire « Tomato paste », donc concentré de tomates, « Made in China ». Et donc j'avais une preuve, entre guillemets, du fait que de la tomate venait de Chine pour être transformée en coulis de tomate provençale. J'ai connu le coulis de tomate de ma grand-mère, j'ai grandi en Provence, donc ça me paraissait totalement absurde qu'on fasse venir de la tomate jusqu'en Provence, qui est un endroit très ensoleillé, comme chacun le sait. Et donc ça a été le point de départ d'une très longue enquête. Je me suis mis en tête de raconter en fait l'histoire du capitalisme et la globalisation à travers le concentré de tomates. Et ce, pour une raison assez simple. Il s'avère que le concentré de tomates est une marchandise totalement universelle. Toute l'humanité mange du concentré de tomates, des plus riches qui mangent des pizzas, des pâtes à la sauce tomate, ou trouvent des bouteilles de ketchup sur les tables de leur restaurant, jusqu'aux plus pauvres, en fait, ceux qui vivent avec moins d'un dollar par jour, notamment en Afrique de l'Ouest, où on mélange le concentré à la shorba, au mafé, à des plats traditionnels. Et donc j'ai remonté toute la filière mondiale du concentré de tomates, j'ai fait des enquêtes historiques pour raconter l'histoire de Heinz, qui est né à Pittsburgh, dans le berceau de la sidérurgie américaine. J'ai également essayé de retracer l'histoire de la filière italienne, puisque c'est une industrie qui est née et qui s'est développée en Italie. Donc ça a été un très très long travail qui m'a emmené jusqu'en Chine, jusqu'en Californie. J'ai réussi à rencontrer les plus grands dirigeants de la filière mondiale, qu'ils soient chinois, américains ou italiens. Et j'ai également rencontré les Danais, les cueilleurs au Xinjiang, les migrants qui ramassent les tomates pelées dans le sud de l'Italie. Donc c'est une sorte de fresque monumentale qui, sur le papier, l'ambition était un peu mégalo. Ça m'a donné beaucoup de fil à retordre et j'ai fait pas mal d'insomnie pour réussir à mener ce projet. Mais j'en suis assez fier. Et j'étais honoré, j'ai reçu le prix Albert Londres pour cette enquête en 2018.
Oui, alors effectivement, votre travail dans plusieurs pays, tout ça est assez impressionnant, parce qu'on se dit que pour écrire un livre, c'est pas comme ça que ça se fait. Enfin, quand on est journaliste d'investigation, comme on dit aujourd'hui, c'est bien ça. Est-ce que vous considérez comme un journaliste d'investigation?
Disons que je suis toujours mal à l'aise avec cette étiquette journaliste d'investigation, parce que dans ma conception du journalisme, tous les journalistes devraient investiguer. Donc je me dis, qu'est-ce qu'un journaliste s'il ne fait pas de l'enquête, de l'investigation? Alors ça peut paraître un peu péremptoire ce que je dis, mais moi je me vois d'abord comme un journaliste et uniquement comme un journaliste. Je suis souvent le fil de ma curiosité, qui est un peu, peut-être suis-je un peu obsessionnel, parce que c'est vrai que quand je me suis mis en tête de travailler sur la tomate, je suis allé tout de même assez loin.
Combien d'années?
C'est 2 ans et demi en fait à temps plein, mais sachant que quand je débute une enquête, en général, il y a toujours une période où, sans travailler à temps plein, je lis énormément sur le sujet, sans savoir d'ailleurs si ça aboutira ou pas à un projet. Il y a énormément de thèmes auxquels je m'intéresse qui, oui, font l'objet de recherches et qui n'aboutissent pas toujours en fait à un projet. Mais c'est véritablement 2 ans et demi à temps plein, avec notamment l'apprentissage de l'italien, qui était une langue impérative pour pouvoir rencontrer un très très grand nombre de protagonistes de cette industrie.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre un extrait de La Forza del Destino di Giuseppe Verdi et nous reprenons notre entretien avec Jean-Baptiste Mallet. Jean-Baptiste Mallet nous a parlé de son itinéraire de journaliste et d'écrivain et notamment de son livre intitulé L'Empire de l'Or Rouge, enquête mondiale sur la tomate d'industrie. Livre pour lequel il a reçu en 2018 le prix Albert Londres du journalisme.
Bon, alors on a parlé là d'une œuvre, disons, monumentale que vous avez faite avec votre livre. Et là, on va parler d'une autre œuvre monumentale qui est justement, a été réalisée ou tentée d'être réalisée par Olivia et Henrik Andersen. Alors là, c'est le sujet de votre livre qui s'appelle « La capitale de l'humanité », un livre qui est sorti récemment, en 2022, qui a été publié chez Bouquin. Et vous l'avez commencé d'ailleurs à Rome, puisque vous me dites que vous avez appris l'italien, vous l'avez commencé dans une bibliothèque à Rome, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. En fait, à l'automne 2014, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai cherché en fait une chambre pas trop chère à Rome, en Italie. Et j'avais fait quelques piges pour témoignages chrétiens. J'ai appelé un ami qui pigeait également pour eux en lui demandant « Écoute, est-ce que t'as pas un plan pour moi ? Je cherche une chambre pas trop chère. » Il m'avait dit « Tu devrais aller voir les prêtres de Saint-Louis-des-Français. Peut-être qu'ils pourront t'aider. » Donc je suis allé taper à la porte de Saint-Louis-des-Français. J'en ai profité pour aller voir les tableaux du Caravage qui se trouvent dans l'église à côté du Sénat. Et il se trouve que par hasard, une place se libérait, une chambre se libérait. Les prêtres de Saint-Louis-des-Français m'ont offert l'hospitalité en échange d'un travail bénévole dans une vieille bibliothèque. Alors, c'est une bibliothèque fascinante parce qu'elle n'abrite pratiquement pas de livres du XXe siècle, à quelques exceptions près, mais on trouve beaucoup d'incunables, une édition originale de l'encyclopédie, et beaucoup de livres qui étaient placés à l'index. Alors je suppose qu'il devait y avoir, par le passé, des prêtres qui devaient être assez curieux, parce qu'il y avait beaucoup de livres qui, en fait, n'auraient pas dû se trouver là à l'époque. Bon.
Mais c'est courant en Italie, hein.
Oui, oui, oui. Et donc, en rangeant des livres, une nuit, j'ai trouvé un très, très bel album d'au moins 5 kilos, un très grand livre, intitulé « Création d'un centre mondial ». J'ai apporté ce livre sur la table de lecture, j'ai commencé à le lire, et là j'ai été émerveillé en fait par la beauté de ce livre. Ce livre faisait la promotion d'une cité idéale, très précisément d'une capitale du monde en fait. Son nom exact, c'est le Centre Mondial de Communication. Et donc, je ne comprenais pas en fait au début ce que j'étais en train de lire, mais le livre expliquait, donc il avait été imprimé en 1913, il expliquait qu'il était temps maintenant, à l'heure des grandes expositions universelles, de construire une ville pour unir les nations, défendre la paix, promouvoir la coopération scientifique, la coopération artistique, permettre aux religieux du monde entier de pouvoir organiser des grands congrès, des grands colloques. Et donc, très, très sincèrement, la ville était si grande et si détaillée que je n'arrivais pas vraiment à comprendre de quoi il s'agissait, si c'était sérieux ou pas, qui étaient les personnages qui avaient rêvé cette ville. Et donc, j'ai commencé une enquête, au début vraiment simple curieux. Et de fil en aiguille, j'ai découvert non seulement que cette cité idéale avait connu un succès extraordinaire à la Belle Époque, mais également que cette ville était totalement tombée dans l'oubli. Donc j'ai décidé de retracer l'histoire de cette utopie, de mener une longue enquête, mais la particularité cette fois, c'est que j'ai enquêté sur une histoire que je ne connaissais pas. Donc j'ai travaillé pendant des années pour retracer la vie de ces différents personnages sans savoir véritablement qui ils étaient. Alors il y a eu je raconte ça au tout début du livre dans le prologue, des moments un peu étourdissants. J'ai notamment découvert après plusieurs années de travail que le personnage principal à la fin de sa vie est allé proposer ce projet de cité idéale pacifiste à Benito Mussolini, ce qui a été un choc pour moi parce que je n'avais pas vraiment envie d'écrire un livre consacré
qui était journaliste.
Mais c'était très, donc très surprenant. J'ai fini par percer beaucoup de mystères de cette histoire, comprendre que le personnage principal de cette histoire, Henrik Andersen, n'est pas à proprement parler un fasciste, c'était une autre catégorie de personnages, mais c'était un parti pris très audacieux, parce que se mettre en tête, là encore, d'arpenter plusieurs pays, puisque j'ai enquêté en Italie, aux États-Unis, en Belgique, en France bien entendu, en Grèce, enfin, ça a été très 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 long, j'ai exploré des fonds d'archives dans le monde entier, Se mettre en tête de faire tout ça sans savoir si on va véritablement réussir à retracer une histoire, là encore, c'était quelque chose de très très particulier, très audacieux.
Alors, dans ce livre que je conseille, parce que je l'ai lu, c'est une enquête, hein, c'est très écrit de façon très simple, on se prend au jeu en suivant les personnages, et il y a tout un chapitre dédié au pacifisme. Alors bien sûr, nous dans notre émission pacifiste, tout de suite, je m'y suis intéressé, et surtout le pacifisme que vous avez appelé de la Belle Époque, mais qui est surtout le pacifisme aussi d'avant la Première Guerre mondiale et bien avant, c'est-à-dire le 19e siècle. Alors j'ai vu que ça commençait justement ce pacifisme sous un chapitre qui s'appelle « Les pacifistes de Wall Street ». Mais enfin bon, on va y revenir. Il y a une phrase que vous dites aussi au fond, presque en terminant votre livre. Alors je vais la citer. En France, le mouvement pacifiste souffre d'une piètre réputation depuis qu'il a été discrédité par des collaborationnistes et des attentistes au lendemain de la défaite de juin 1940, puis instrumentalisé par deux blocs qui se sont affrontés au cours de la guerre froide. Cette déconsidération explique en partie pourquoi de nos jours les pacifistes juridiques, alors après on va expliquer ce que c'est que les pacifistes juridiques français, des années 1900 sont davantage étudiés à l'étranger que dans leur propre pays. Alors effectivement, en lisant ce livre, on découvre tout un aspect du pacifisme qu'on connaît très peu chez nous. Et est-ce que vous pensez qu'il a été oublié complètement? On va en reparler, hein, parce que c'est aussi le thème de notre émission. Mais pourquoi ce pacifisme aurait été tellement caché, oublié?
Alors je vais répondre à votre question, mais au préalable, je dois préciser qu'en effet, j'ai d'abord souhaité raconter une histoire. Donc on suit dans ce livre les différents protagonistes, on les évoquera peut-être après dans l'émission, Henrik Andersen, Olivia Cushing et l'architecte français de cette ville, Ernest Ebrard. Je tenais à ce que ça se lise vraiment comme un roman, sans rien inventer. Donc tout est basé dans le livre sur des sources écrites, mais je voulais construire une intrigue, développer la psychologie des personnages, et donc m'appuyer notamment sur leurs journaux intimes, sur leurs correspondances, pour véritablement en faire des personnages et non seulement des abstractions. Et en effet, pour comprendre parfois des étapes clés, je développe des aspects de l'histoire des idées qui permettent aux lecteurs d'aujourd'hui de se replacer dans le contexte d'hier. Parce qu'en effet, quand on parle de pacifisme au début du 21e siècle, ça n'a rien à voir avec ce pacifisme qui s'est développé en fait tout au long du 19e siècle, puis au début du 20e siècle. Donc il me paraissait vraiment important pour comprendre dans cette histoire comment des pacifistes, on va dire plutôt libéraux, et des pacifistes plutôt socialistes se sont en fait portés volontaires pour défendre cette utopie, parce que il y avait différents types de pacifistes en fait.
Qu'on la décrive un peu cette utopie alors, parce qu'on est peut-être passé un peu vite là-dessus. Ce qu'il voulait construire justement, Henrik Andersen, c'était quoi?
Alors, le centre mondial de communication, c'est une sorte de rationalisation des expositions universelles permanentes, c'est-à-dire créer une ville qui soit un lieu de convergence et de rassemblement pour toute l'humanité, où les grandes nations puissent discuter entre elles. Donc il y avait cette idée déjà d'arbitrage des conflits pour que les grands diplomates du monde entier puissent venir dialoguer. C'était une sorte d'embryon utopique de la SDN en fait, hein, tout simplement, mais avec également l'idée que les grands artistes, les grands scientifiques puissent également débattre. Le baron de Coubertin, celui qui a rénové les Jeux Olympiques, était également un soutien de cette ville. Donc on imaginait que plutôt que de construire chaque année des infrastructures pour les Jeux Olympiques, on pouvait avoir une ville, un lieu d'établissement définitif. Donc c'était l'idée qu'au cœur de la première mondialisation, une ville pouvait être une sorte de cosmopolis, de trait d'union entre les peuples. Et à la Belle Époque, on l'a oublié aujourd'hui, mais l'utopie n'était pas réservée aux révolutionnaires ou aux révoltés de gauche. En fait, l'utopie faisait partie intégrante du siècle, et quels que soient les postulats idéologiques, philosophiques, politiques, l'utopie pouvait se décliner partout. Et donc, par bien des aspects, cette utopie est une utopie libérale, mais elle pouvait séduire des socialistes. Je pense notamment à Henri Lafontaine, prix Nobel de la paix 1913, qui a été un promoteur actif de cette utopie. Henri Lafontaine, qui lui était ce qu'on appellerait aujourd'hui un collectiviste réformiste. C'est-à-dire qu'Henri Lafontaine avait pour idéal définitif le collectivisme planétaire. Il rêvait d'une mutualisation de tous les moyens de production, de communication, de transport. Il rêvait d'une grande banque mondiale. Donc il pensait qu'on arriverait à l'unité de l'humanité par le collectivisme, mais pas par la révolution, par étapes, par paliers, ce qui peut paraître effectivement assez savoureux aujourd'hui. C'était quelqu'un qui était très introduit dans la grande bourgeoisie bruxelloise, qui était notamment l'ami du roi Albert Ier, et qui pouvait discuter avec des grands capitalistes du collectivisme sans que ça passe pour quelque chose de saugrenu, parce qu'à l'époque, même des milliardaires et des grands capitalistes voulaient bien croire, parce qu'ils étaient convaincus que, par les théories évolutionnistes et par le progrès, ils étaient convaincus qu'un jour on inventerait peut-être quelque chose de mieux que le capitalisme. Donc c'est une période très très particulière, qui est difficile de se représenter pour un lecteur du XXIe siècle. Et donc c'est pourquoi, lorsque les deux personnages principaux de cette histoire, Henrik Andersen et Olivia Andersen, sont allés à New York et ont rencontré des soutiens parmi la communauté pacifiste libérale, il était important pour moi de rappeler un petit peu ce qu'était le pacifisme de Wall Street, parce que ça peut forcément paraître un peu bizarre pour quelqu'un qui vit aujourd'hui en ce début de XXIe siècle. Donc, je rappelle au lecteur en fait que les idées pacifistes deviennent, entre guillemets, enfin sont défendues par des militants du mouvement ouvrier à partir des années 1960-1970, mais qu'auparavant, dans la première moitié du 19e siècle, ce sont d'abord des promoteurs du libre-échange, des individus opposés à l'esclavage, donc d'obédience libérale, qui défendent les premiers ces idées. C'est un peu comme l'écologie politique qui aujourd'hui est peut être défendue par des gens de gauche, mais qui est plutôt née dans le mouvement conservateur, hein, historiquement. Donc ces pacifistes libéraux ou ces pacifistes religieux ont organisé les premiers congrès de la paix au 19e siècle. À partir donc des années 1870-1870, il y a des disputes entre eux, ils se réunissent toujours. Je cite l'exemple d'un grand rassemblement de la paix où on trouve des défenseurs du libre-échange, Bakounine, si je ne dis pas de bêtises, des membres de la Première Internationale, Garibaldi, qui n'était pas vraiment pacifiste, enfin il était à ses congrès pacifistes, mais il a fait la guerre toute sa vie. Donc il y avait des personnages comme ça, de toute tendance, certains athées, d'autres très religieux. Et là, déjà, à la fin du 19e siècle, on se dispute pour savoir comment atteindre la paix perpétuelle. Dans le mouvement ouvrier, chez les anarchistes, les socialistes, on pense que c'est par la lutte des classes, par la révolution, par l'abolition de la division des classes sociales. Mais chez les libéraux, certains affirment que c'est par l'établissement des États-Unis d'Europe. Donc déjà à la fin du XIXe siècle, ce clivage sur la question européenne se pose. Et j'ai trouvé important de rappeler tous ces points au lecteur.
Alors justement, je vais citer peut-être un anarchiste, James Guillaume, que je connaissais pas trop, et qui proclame « Pour établir la paix perpétuelle, il faut anéantir les lois qui oppriment le travail, anéantir tous les privilèges et faire de tous les citoyens une seule classe de travailleurs. » En un mot, accepter la révolution sociale avec toutes ses conséquences. Alors lui, il parle de révolution, du coup, l'anarchiste.
Tout à fait. Et aussitôt, des libéraux lui répliquent « Non, il faut plutôt faire les États-Unis d'Europe ». Je voulais montrer tout ça au lecteur, parce que ça permet de comprendre quand les Andersen, donc les deux personnages principaux de cette histoire qui ont activement promu cette utopie, arrive à New York, à Wall Street. Là, il découvre ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des pacifistes bourgeois. Donc, aux États-Unis, au tout début, fin 19e siècle, début du 20e, donc à la belle époque, ce sont des présidents américains qui sont au pouvoir. C'est le début de l'impérialisme américain. Des guerres éclatent un peu partout en Amérique latine pour défendre les intérêts des États-Unis. Et une fraction d'hommes d'affaires et notamment Andrew Carnegie, mais bien d'autres, vont défendre une vision de la géopolitique, des idées idéalistes, en fait, contre l'impérialisme, en fait, d'une autre partie du monde des affaires. Et donc, à cette époque-là, il y a des grands capitalistes qui sont tout à fait minoritaires, mais qui financent le mouvement de la paix avec un certain nombre de fondations. C'est à cette époque-là que la fondation Carnegie est créée. Et ces personnages vont donner un coup de main, si je puis dire, aux Andersen en les introduisant à Washington et en soutenant ce projet.
Oui, d'ailleurs, ils vont même jusque voir des personnages très importants, comme le roi de Belgique, par exemple.
Alors, en Europe, en effet, parce qu'effectivement, j'ai pas répondu à votre question un peu plus tôt sur l'oubli du pacifisme d'avant la Première Guerre mondiale. En fait, quand on pense aujourd'hui à la Belle Époque, beaucoup de gens ont l'impression, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été publiés sur la Première Guerre mondiale, que la Belle Époque aurait été une sorte d'avant-guerre permanente. En réalité, il y avait le mouvement pacifiste était fort à la Belle Époque. Il y avait des communications régulières entre les pacifistes des différents pays européens, un bureau de la paix, le prix Nobel avait déjà été institué, et donc tout un courant idéaliste, en fait, de pacifistes, socialistes et libéraux faisait la promotion de l'arbitrage international et rêvait, en fait, de l'avènement des premières institutions internationales pour régler pacifiquement les conflits. Et certains historiens estiment aujourd'hui que, même si ces efforts n'ont pas suffi à éviter la guerre, certains historiens pensent que ça l'aurait peut-être retardé, en fait. Donc, bon, on pourrait avoir ce débat indéfiniment, mais c'est un point important parce que, effectivement, comme je l'écris dans le livre, aujourd'hui, en France, personne ne connaît, par exemple, Paul d'Estournelles de Constant, qui est le prix Nobel de la paix 1909. C'est un personnage qui a défendu âprement ce projet de centre mondial de communication, cette cité idéale. Je suis allé consulter ses archives dans la Sarthe, chez lui, parce qu'il y a une partie de ses archives qui ont été conservées là-bas. C'était quelqu'un qui connaissait très bien le sculpteur Rodin, qui était en lien également avec Carnegie, enfin qui était très introduit dans les milieux pacifistes libéraux, et qui, avec d'autres pacifistes francophones, prix Nobel de la paix à la Belle Époque, ont élaboré tout le courant idéaliste. Alors, même si on n'adhère pas à ces idées qui restent en réalité des idées libérales, je pense que c'est une séquence très intéressante intellectuellement qui mériterait d'être davantage étudiée. Parce que pour, encore une fois, là je cite d'autres historiens, pour beaucoup d'historiens, c'est grâce à ce courant idéaliste de la Belle Époque qu'ont pu être créés ensuite la SDN puis l'ONU, alors avec les défauts qu'on leur connaît, mais qui ont le mérite d'être des lieux de dialogue, de concertation.
Dans l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie du journaliste et écrivain Jean-Baptiste Mallet. Vous venez d'entendre dans la pause musicale un nouveau morceau de Giuseppe Verdi, La marche triomphale de Aïda, et nous reprenons maintenant notre entretien avec Jean-Baptiste Mallet, autour de son livre La capitale de l'humanité, livre qui retrace l'histoire d'Olivia et Henrik Andersen, deux utopistes états-uniens qui ont imaginé un centre mondial de communication d'inspiration pacifiste.
Alors effectivement, là je note par exemple en 1899 à La Haye la conférence de la paix, je note aussi en 1909 celui dont nous avons parlé, Paul d'Estournel de Constant, dont j'ai découvert le nom d'ailleurs, comme quoi les pacifistes ont encore beaucoup à apprendre, et il faut qu'ils lisent absolument le livre de Jean-Baptiste Mallet, on apprend beaucoup. Et puis, en Belgique aussi, Paul Oudet et Henri Lafontaine.
Paul
Oclé, pardon, et Henri Lafontaine dont vous avez parlé. Alors, deux socialistes belges.
Alors, Paul Oclé et Henri Lafontaine sont deux personnages assez savoureux. Paul Oclé a notamment inspiré à Hergé un personnage de savant fou, le professeur Alambic, dans l'un de ses albums. Ils sont tous les deux nés dans la grande bourgeoisie. Ils sont tous les deux influencés par le positivisme et le marxisme. Et ils seront proches du Parti ouvrier belge, qui est le premier parti socialiste en fait de Belgique. Henri Lafontaine va être un sénateur, il va être le président du bureau de la paix, il va être également prix Nobel en 1913. Il connaissait très bien Bertha von Suttner et d'autres grands pacifistes de la Belle Époque. Paul Oclé, lui, est un bibliographe, et avec son ami, son fidèle ami Henri Lafontaine, ils vont créer le répertoire bibliographique universel. Alors c'est une expérience insolite et inédite que ce répertoire bibliographique universel, parce que aujourd'hui, pour n'importe quel chercheur, universitaire ou curieux, il suffit d'aller sur Internet, de taper le nom d'un livre quand on cherche un livre dans une bibliothèque, et de consulter des bibliographies entières. Pour un chercheur qui souhaite s'informer sur un sujet et consulter des articles scientifiques, il suffit là encore de taper des références dans un catalogue, dans un moteur de recherche, et de consulter les réponses. Mais à la Belle Époque, alors même que le progrès scientifique est une réalité et qu'on fait beaucoup de découvertes, hein, que ce soit au niveau de la médecine, des transports, des communications, les premiers aéroplanes volent dans le ciel, enfin c'est une période assez extraordinaire, les scientifiques n'ont pas accès à cette information, tout simplement parce qu'elle n'a pas encore été référencée. Et donc Paul Oclé et Henri Lafontaine, avec leur répertoire bibliographique universel, décident de mettre en fiche l'ensemble des livres et des connaissances du monde. Alors ça peut paraître depuis l'histoire de l'imprimerie, depuis les débuts de l'imprimerie. Donc cette expérience prométhéenne totalement inédite mobilise un très grand nombre de bénévoles à Bruxelles qui créent le répertoire bibliographique universel adossé à la Bibliothèque royale de Belgique. Et Henri Lafontaine et Oclé pensent que, en fait, l'accélération de la coopération scientifique va permettre de rapprocher les nations et d'accélérer la paix. Donc c'est une initiative pacifiste qui passe par le développement de la connaissance. Alors, par certains aspects, c'est bien évidemment très utopique, parce que le postulat derrière tout ça, c'est l'idée selon laquelle si l'on communique davantage, si l'on partage des informations, alors on accélère la paix. Ce postulat peut être critiqué parce que malheureusement, eh bien, la division des classes sociales, par exemple, n'est pas abolie par le fait qu'on communique. Donc c'est un des aspects que j'évoque dans ce livre. Moi, je ne me permets pas de juger cette utopie et les utopies planétaires, mais je rappelle en effet que certains libéraux, et c'est notamment le cas même des technoprophètes de la Silicon Valley aujourd'hui, d'Elon Musk, de Mark Zuckerberg ou de Jeff Bezos, beaucoup de grands capitalistes aujourd'hui vont tenir un discours qui, par certains aspects, peut être pacifiste, puisque Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, va dire « Facebook permet de relier l'humanité, de sauver le monde, d'unir entre eux les individus ». Et donc, il y a chez eux ce discours selon lequel mieux communiquer ou accélérer les communications serait inéluctablement un facteur de paix. Bon, moi je suis plutôt d'accord avec l'autre grande tendance du mouvement pacifiste qui pense que non, il n'y a pas d'unanimité harmonieuse possible si on ne règle pas la question sociale. Donc, mais tout ça, il fallait le remettre dans son contexte pour comprendre l'émergence de cette utopie.
Alors après la Belle Époque arrive bien sûr la guerre de 14-18, première guerre mondiale. Et vous écrivez, cette première guerre mondiale n'a pas seulement ruiné l'Europe et tué plus de 18 millions de personnes, elle a également contribué à ensevelir la mémoire du pacifisme en suscitant l'illusion, parmi nos contemporains, que le début du XXe siècle n'aurait été qu'une sorte d'avant-guerre permanente, ce que vous nous avez déjà dit tout à l'heure. Alors effectivement, même des pacifistes français, il y en avait beaucoup, moi je ne savais pas, Frédéric Passy, Henri Dunant, Élise Ducommun, Louis Renault. Alors Louis Renault, je crois que c'est celui de la Régie Renault, hein. C'est bien ça?
Je ne crois pas. Non, non, je ne pense pas qu'il ait de lien avec Renault.
Bon, tant mieux, parce que Renault qui construisait des tanks avant la guerre... Auguste Bénard, etc., tous qui ont été prix Nobel. Alors ça, donc tous ces noms, malheureusement, on ne les connaît pas assez, et je crois qu'il faudra les... Alors, mais revenons quand même, maintenant, donc au couple Andersen. Pendant cette Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils font?
Alors d'abord, il faut dire ce qu'ils font avant la Première Guerre mondiale, parce que et parler peut-être un petit peu d'Henrik Andersen. Henrik Andersen est né dans le prolétariat, immigré aux États-Unis, donc il vient d'une famille norvégienne. Il arrive, il est encore nourrisson aux États-Unis. Il a un frère aîné qui s'appelle Andreas, une mère Hélène et un père Anders qui lui est alcoolique et violent. Donc Hendrik et son frère Andreas et sa mère Hélène vivent des années terribles à Newport dans un quartier ouvrier. C'est vraiment ce qu'on peut imaginer de pire à la fin du 19e siècle. Ils vivent dans un taudis. L'alcoolisme fait des ravages dans ce quartier. Donc Hendrik, lorsqu'il est enfant, cire des chaussures dans la rue, vend des journaux et des pommes. Sa mère est domestique et essaie d'éduquer ses enfants avec beaucoup d'amour. Les enfants retrouvent parfois leur père souillé de vomissures, allongé dans la maisonnette où ils habitent. Donc c'est une enfance très très dure, très violente. Et le frère aîné d'Hendrik, donc Andreas, a un talent, il dessine très bien. Il étudie un petit peu le dessin à Newport et puis il parvient à étudier l'art à Boston, dans une école d'art fréquentée par la bourgeoisie, où il est de loin le plus pauvre. Il vit des années assez difficiles parce qu'il doit travailler à côté de ses études pour financer ses études d'art. Enfin, c'est vraiment compliqué pour lui. Mais Andreas comme Hendrik ont reçu de leur mère une éducation protestante. Leur mère leur lisait des passages de la Bible tous les soirs. Ils sont animés d'une foi religieuse très 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 forte. Et Andreas va réussir en travaillant dur, il va obtenir une bourse en fait qui va lui permettre d'aller étudier à Paris. Hendrik, qui est moins doué que lui, va suivre son exemple. Il va également apprendre le dessin dans cette école d'art de Newport, puis apprendre la sculpture à Boston. Il va rejoindre également son frère à Paris. Parce qu'entre-temps, son frère s'est lié d'amitié avec une famille de la haute bourgeoisie états-unienne qui vit également à Paris, la famille Cushing. Et ça pose un petit peu le décor. On a affaire à des artistes qui viennent d'un milieu ouvrier, mais qui ont une très très grande ambition. Non pas une ambition pour eux-mêmes, c'est-à-dire gagner de l'argent, devenir célèbre, mais une ambition spiritualiste. C'est-à-dire que Andreas comme Hendrik pense que l'art est à même de rapprocher les hommes et Dieu. Et donc, cette ambition spiritualiste, Hendrik va la faire vivre dans sa sculpture tout au long de sa vie. Et ça va bien, bien plus tard, il va se produire énormément de choses, mais aboutir à cette utopie qui est le Centre mondial de communication, qui, avant d'être un projet politique, est en réalité un projet religieux. On va dire que les soubassements de ce projet de cité idéale sont d'abord des soubassements spiritualistes. Alors même si ça n'apparaît pas officiellement, en partie parce que les soutiens de cette ville disent au Andersen, surtout ne mettez pas en avant l'idéalisme de ce projet, mettez en avant les aspects pratiques, ce qui cette ville pourrait permettre d'économiser beaucoup d'argent pour les nations, notamment en rationalisant les expositions universelles, etc. Donc beaucoup de soutien, et c'est notamment le cas du prix Nobel de la paix 1909, Paul d'Estournel de Constant, Dia Hendrick. Ne passez pas pour un idéaliste, même si vous en êtes un, mettez en avant la dimension pratique, donc c'est ce qu'ils font dans les brochures de propagande, dans les livres, mais néanmoins, il y a tout de même un rappel constant au besoin d'unité spirituelle de l'humanité, donc c'est quelque chose qui là encore peut paraître surprenant aujourd'hui, mais qui était sincère chez ces personnages.
Alors cette cité, il y a des plans qui apparaissent, et qu'est-ce qu'on peut voir dans ces plans? Parce que finalement, après, quand ça a été récupéré, on va en parler, hein, par Mussolini, il y avait déjà des plans de bâtiments, d'urbanisme.
Alors, on peut peut-être dire un mot de l'architecte, même si je ne vais pas tout révéler pour que les lecteurs, les auditeurs gardent un plaisir de lecture. Mais pour dire les choses sommairement, Ernest Ébrard, donc le Français, prix de Rome d'architecture, qui rencontre les Andersen dans les années 1900, parce qu'il est pensionnaire de la Villa Médicis, dans un premier temps n'adhère pas au projet, ça lui paraît un peu boursouflé tout ça, il ne comprend pas bien où veulent en venir ces deux Américains, Hendrick et Olivier Andersen, pourquoi est-ce qu'ils veulent construire cette ville, bon. Mais néanmoins, il accepte leur chèque pendant de longues années, et il va s'impliquer, on va dire, mollement dans un premier temps, mais avoir une révélation à partir de 1910, lorsqu'il se rend à Londres dans un très très grand colloque d'urbanisme. Alors on parlait pas encore d'urbanisme à l'époque, on parlait de town planning, hein, de planification urbaine, le mot urbanisme arrive vraiment à partir de 1911-1912, donc c'est les tout débuts de l'urbanisme. Et Ébrard, qui a une formation classique, qui a fait les Beaux-Arts, qui a été pensionnaire à la Villa Médicis, qui travaille également comme archéologue, puisque c'est un grand nom de l'archéologie de la Belle Époque, s'intéresse à ces questions urbaines. Et il comprend, à partir de 1910, qu'il pourrait tout simplement réaliser ce qu'on appellerait aujourd'hui un concept, un projet qui, même s'il n'est pas construit, pourrait lui permettre de se faire une belle carte de visite en tant qu'urbaniste, en tant qu'architecte, et donc il va finir par s'impliquer dans ce projet. La ville qu'il dessine est une ville de style Beaux-Arts, synthétise ce qu'il se fait de mieux en termes d'urbanisme à cette époque. Donc Ébrard prévoit tout dans ses moindres détails, le tramway, le métro, les communications par tubes pneumatiques, un chauffage central pour toute la ville, une séparation des fonctions urbaines avec des différents types de centres, les hôpitaux, les sanatoriums, des réseaux de communication par canaux. Donc la réflexion est très, très poussée. Esthétiquement, c'est quelque chose d'assez classique, hein, parce que c'est vraiment de style Beaux-Arts. Et ça correspond à une demande, hein, de Andersen, puisque Hendrick était un sculpteur néoclassique. Il ne jurait que par le classicisme, et donc Ébrard honore cette commande et il l'honore brillamment.
Alors justement, est-ce qu'il s'est inspiré aussi, parce que vous parlez de Jules Prudhomo, pacifiste, administrateur du familistère de Guise, on dit, lieu de vie communautaire créé par l'industriel Jean-Baptiste André Gaudin. Alors comme il se trouve que j'ai fait un film sur Jean-Baptiste André Gaudin, mais qui s'appelait celui-là L'utopie réalisée, parce que lui avait réalisé, je ne sais pas si vous connaissez Guise, avec des bâtiments justement, et c'est pour ça que ça m'a fait repenser cette fameuse cité, à ce qu'avait pu, alors je ne sais pas si c'est Gaudin qui a influencé, ou si c'est, ça correspond quand même à une époque, ça.
Oui. Il se trouve d'ailleurs que au cours de l'écriture du livre, je suis allé visiter le familistère. J'ai pris beaucoup de plaisir. Ils ont fait un travail absolument remarquable. D'année en année, ils ajoutent des choses. Enfin, c'est un site absolument exceptionnel. Et il est vrai que Jules Prud'Homo, donc l'administrateur du Familistère, a été l'un des tout premiers à prendre la plume pour défendre dans la presse francophone le projet de centre mondial de communication. Je ne pense pas que Léon Andersen se soit inspiré du Familistère parce qu'ils n'y sont pas allés. Ça, j'ai vraiment retracé leur vie semaine après semaine, mois après mois, et je sais qu'ils n'ont pas visité le Familistère. En revanche, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu une communauté, on va dire, de pensée, parce que les principes, les idéaux portés par le Familistère, par Jean-Baptiste André Gaudin, par certains aspects, pouvaient trouver une traduction dans cette cité idéale. Donc entre utopistes, ils étaient faits pour s'entendre, si je puis dire.
Alors justement, je vais compléter en disant aussi que Jean-Baptiste André Gaudin était pacifiste et qu'il a même prôné le désarmement, mais carrément le désarmement de l'Europe avant la Première Guerre mondiale. Il y a des écrits qui sont déposés à l'Europe. Alors ça sera peut-être encore une enquête.
C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici, j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais. 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Il n'y en a pas sa propre pure. C'est qui sei a primi la porta. Non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, valeur, équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, oui, mais je joue bien mal aux dames. Tu sais, du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'Italien. Je reviens de si loin. La route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Ouvre, tu es là, je sais. Je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance. C'est que tu n'as pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien. Et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta. Dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù.
Après cette chanson bien connue de Serge Reggiani, nous retrouvons le journaliste et écrivain Jean-Baptiste Mallet dans l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste. Jean-Baptiste Mallet nous parle de son dernier livre « La capitale de l'humanité » et des deux personnages principaux de son récit, Olivia et Henrik Andersen.
On apprend que Olivia malheureusement meurt en 1917, d'après ce que j'ai lu dans votre livre. Et puis 1922 arrivent les fascistes en Italie et justement Henrik Andersen est en Italie, il est à Rome.
Alors je ne vais pas tout révéler hein, pour encore une fois préserver un petit peu de plaisir de lecture. Mais ce que je puis dire sans tout déflorer, c'est qu'en fait, un drame éclate dans cette histoire en 1917, parce que moi au début je pensais en commençant cette enquête que la Première Guerre mondiale avait mis un terme à l'utopie, et que les utopistes quelque part avaient compris que ça ne pourraient pas construire leur ville. En réalité, lorsque la guerre éclate, Henrik Andersen et Olivia Andersen, qui est sa belle-sœur donc, continue de promouvoir cette utopie activement, même si les communications sont coupées et que ça devient très très difficile pour eux. Mais en 1917, Olivia décède, et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'en fait, Olivia et Henrik formaient une sorte de couple platonique. Il y avait une histoire d'amour chaste en fait entre eux. Ils étaient étroitement liés, se sont beaucoup influencés l'un et l'autre. Et Henrik est inconsolable à partir de 1917. Il tombe dans l'alcool, il fait une grave dépression au cours des années 20, et lorsque le fascisme arrive au pouvoir, les premiers temps, il est critique, il déteste l'esthétique rationaliste du fascisme, il déteste son militarisme, Henrik est un pacifiste fervent, mais dans ce désespoir des années 20, petit à petit, il va se laisser séduire par un aspect souvent méconnu du fascisme, qui est la romanité du fascisme, c'est-à-dire cette prétention des fascistes à incarner la Rome de la modernité, c'est-à-dire Mussolini promettait aux Italiens qu'ils seraient les Romains de la modernité et qu'ils avaient une sorte d'ambition universelle. Henrik, qui n'a aucune culture politique, hein, il a arrêté l'école à 13 ans, même si ce personnage mégalomane prétendait connaître beaucoup de choses et avoir un avis sur tout, était inculte hein, politiquement, et donc il ne comprend pas, selon moi, ce qui se passe. Il a une vie très monacale, il se lève le matin, il se fait cuire deux œufs, il passe la journée dans son atelier, l'après-midi il envoie des brochures de propagande à tous les grands chefs d'État dans l'espoir de construire sa ville, et il pense que tous les problèmes du monde pourraient être réglés en construisant sa cité idéale. Et cette monomanie fait qu'il ne voit pas le reste, en fait. Il n'arrive pas à discerner et à trier ses soutiens. Il ne fait pas la différence entre un prix Nobel de la paix comme Henri Lafontaine et un gourou au fin fond de l'Inde qui supporte son projet. C'est quelqu'un qui, malheureusement, manque de discernement. Et au cours des années 20, donc, continue d'inonder le monde de brochures. Un soir, il organise une présentation de sa ville dans la maison qu'il a fait construire au cours des années 20 dans l'espoir d'en faire, après sa mort, un musée, puisqu'il était obsédé par cette postérité, pour préserver à la fois les plans de sa ville, mais également toutes les statues monumentales qu'il a construites tout au long de son existence, dans l'espoir d'orner sa cité idéale. Et ce soir-là, des journalistes fascistes se rendent à la présentation. Dans les semaines qui suivent, il publie des articles assez élogieux sur la ville. Et après cet événement, cet épisode, Henrik commence à contacter quelques hiérarques fascistes. Et là, étonnamment, alors que les dirigeants libéraux, après la Première Guerre mondiale, ne prêtent plus attention à cette utopie, les fascistes, eux, vont s'intéresser à ce projet. Et Henrik va même rencontrer Mussolini, et Mussolini va lui accorder une audience de 12 minutes. Et donc à ce moment-là, Henrik va croire qu'il serait possible de construire cette cité idéale en Italie. Bien évidemment, Mussolini ne va pas construire le projet, mais il va s'en inspirer pour une réalisation assez spectaculaire, qu'on ne va pas citer pour garder un petit peu de suspense, voilà. Mais en effet, les fascistes ont plagié des pans entiers de cette cité idéale pour une réalisation assez spectaculaire.
Et vous trouverez dans le livre justement tout ce qui concerne cette construction à Rome. Alors, il y a maintenant un musée à Rome, justement d'Hersen. Et ce musée, je crois que vous l'avez visité parce qu'il a été découvert par Elena Di Maio. Elena Di Maio, en italien, et donc est ouvert en 1999. Alors, on peut le visiter maintenant, ce musée, c'est intéressant finalement de...
Oui, c'est un lieu assez extraordinaire. Pour moi, tout a commencé dans ce musée parce que j'ai découvert ce livre donc à l'automne 2014. Et puis, peu après, en faisant quelques recherches sur Internet, je me suis aperçu qu'il existait un musée Andersen à Rome. Et donc, je me suis rendu... le lendemain de ma découverte du livre dans la bibliothèque, dans ce musée. Et là, j'ai découvert les plans originaux de cette ville, des statues monumentales exaltant l'amour, la joie, des grandes valeurs. Bon, alors, ces statues me paraissaient un peu rhétoriques et au cours des 5 premières minutes, le musée m'inquiétait un petit peu parce que c'est une atmosphère très particulière. Mais après ces 5 minutes inquiétantes, j'ai trouvé beaucoup de charme à ce musée qui pour moi est une incarnation de l'utopie. J'ai ressenti des émotions très fortes et je ne savais pas à l'époque que la cité idéale, le Centre mondial de communication, avait connu un succès aussi important. Donc pendant... plusieurs années, je suis retourné dans ce musée, j'ai dû le visiter une dizaine de fois, et au début je ne comprenais rien, mais je trouvais beaucoup de plaisir à regarder les plans de cette ville. Et c'est à partir de ces nombreuses visites du musée que j'ai décidé en fait de consacrer plusieurs années de travail à la reconstitution de cette histoire, et j'invite vraiment vos auditrices, vos auditeurs, s'ils en ont la possibilité, s'ils se rendent à Rome, à visiter ce musée, qui est un tout petit musée gratuit, un musée public, et à prolonger leur visite, voilà, qui se situe au numéro 20 de la Via Mancini, M-A-N-C-I-N-I, pas très loin de la Piazza del Popolo, c'est vrai, et ils peuvent également compléter cette visite par la visite du cimetière du Testaccio, donc dans le quartier de Pyramide, qui est connu pour abriter les cendres de Gramsci, qui Pasolini a consacré un célèbre poème. Mais c'est donc ce qu'on appelle le cimetière acatholique, donc le cimetière protestant, où on enterrait également des juifs et des athées. Et c'est là que se trouve la tombe des Andersen, d'Olivia Andersen, d'Hélène Andersen, d'Hedrick Andersen, d'Andreas Andersen et de Lucia Andersen. C'est une très belle petite tombe, on peut même ouvrir un petit portillon et se retrouver nez à nez avec une statue monumentale. C'est un lieu assez extraordinaire qui rappelle le souvenir de cette cité idéale.
Thank you.
Alors, Jean-Baptiste Mallet, là, on arrive à la fin de l'émission. Donc, je conseille bien sûr à toutes les auditrices et tous les auditeurs de lire La capitale de l'humanité. Donc, parce que comme ça, ils connaîtront plein de choses qu'on ignore, hein, on découvre beaucoup de choses. Mais est-ce que les Italiens connaissent mieux cette histoire que les Français? Parce que les Français, je crois que... Moi, je l'ai découverte, en tout cas.
Non, cette histoire n'est pas mieux connue en Italie. En fait, elle est totalement inédite. Elle m'a demandé de passer plus d'un mois à la bibliothèque du Congrès à Washington. J'ai exploré énormément de sources inédites, en fait, pour retracer cette histoire. Et il faut nécessairement parler italien, français, anglais et comprendre ces trois langues pour réussir à la retracer. Je pense que les Italiens qui travaillent dans le musée n'ont pas tous une compréhension du français. Or, c'est la langue dans laquelle s'est fait les échanges avec Ernest Hébrard. Enfin, ce n'est qu'une hypothèse, hein. Mais en tout cas, cette histoire était totalement inédite. Donc, ça a été très difficile de retracer tout ça. Mais je suis assez fier du résultat, même si ça n'est pas très contemporain, parce que parler de la paix à l'heure de la guerre en Ukraine, les pacifistes savent que c'est très difficile, hein, d'être audible dans une période aussi troublée, aussi dure. Mais ça me tenait beaucoup à cœur. J'avais envie de rappeler que, ben oui, des rêveurs ont rêvé d'autre chose. Pas nécessairement pour adhérer à l'essence et à la totalité de leurs rêves, mais je pense qu'il faut réussir à avoir un mouvement de pensée libre et être capable à la fois de critiquer les utopies planétaires, de critiquer les utopies, parce que les utopies sont figées, elles peuvent être dangereuses, mais également d'en rêver de nouvelles. Et je pense que c'est dans ce mouvement dialectique, en fait, de critique à la fois de l'utopie, tout en acceptant qu'on est condamné à en rêver de nouvelles si on veut espérer avoir un avenir sur cette Terre, j'avais envie de consacrer une enquête, une histoire à ces rêveurs qui le méritaient bien.
Alors Jean-Baptiste Mallet, je pense que votre livre, puisque les précédents ont été traduits dans plusieurs langues, va être traduit prochainement en italien et en anglais.
J'espère. C'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, il y a une traduction au Japon, qui est un pays avec une forte tradition pacifiste. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une tradition au Japon. Alors j'espère qu'il y en aura d'autres, mais...
Alors, comme nous avons des amis japonais, vous nous donnerez le titre en japonais. On va leur communiquer ce titre. Je suis sûr qu'ils seront intéressés parce qu'effectivement, il y a même un musée de Bernard Buffet au Japon, qui est le plus important musée de Bernard Buffet, qui était aussi pacifiste, lui, au Japon. Alors, bon, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Eh bien, écoutez, merci beaucoup.
Merci.
De votre. Et puis, non, on a oublié quelque chose de très important, c'est que vous êtes journaliste au Monde Diplomatique, que nous avons lu des articles très intéressants, notamment sur Monsieur Pierre Rabhi, et que vous dévoilez des aspects. Alors là, c'est aussi un peu contre le... Bon, on ne va pas reparler de ça aujourd'hui. Vous reviendrez dans notre émission pacifiste pour compléter. Aujourd'hui, je sais que vous devez quand même, vous avez d'autres activités. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt, à très très bientôt.
Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate. Se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.